Aujourd'hui, 8 février 1982, le docteur Perret qui se propose de nous raconter la journée de bombardement que ses parents ont vécue le 13 avril 1943.
J'étais donc en effet boulevard Leroy. Je suis le cinquième d'une famille de 12 enfants et le 13 avril 1943, mes parents ont donc subi un bombardement sur le quartier de la gare. Une bombe est en effet tombée au milieu du jardin et la maison était en partie abîmée par des éclats d'obus, mais surtout une de mes sœurs a été blessée assez gravement puisqu'elle a eu quand même un sein déchiré en partie et puis une épaule avec des éclats d'obus. Et je raconte ça parce que pour voir la suite et ce qui s'est passé pour mes parents et leur grande famille le jour du débarquement lui-même, un an après, un peu plus d'un an après, s'il faut revenir un petit peu à cet événement-là, car à la suite de ce bombardement, mon père a pris peur, voyant les dégâts et ce qu'aurait pu s'imaginer, puisque juste avant que, pendant que les sirènes sonnaient, six de, je crois, des frères et sœurs jouaient dans le jardin, mon père revenait lui d'une tournée d'assurance et il a entendu, arrivant dans la gare de Caen, il a entendu les sirènes, il a monté très rapidement par la 28 jusqu'au boulevard Leroy. Il a eu juste le temps d'appeler mes frères et sœurs et de leur dire venez, ramassez-vous en vitesse, et à ce moment-là, la bombe est tombée dans le milieu du jardin, ce qui a blessé une de mes sœurs. Donc quand il a vu ça, il a pris peur et la mairie avait offert à un certain nombre d'habitants du quartier de la gare d'aller se loger ailleurs et donner donc certaines maisons, enfin prêter ou louer certaines maisons dans la ville de Caen. Et c'est ainsi que mes parents donc, sont arrivés rue Lafila, pas loin de la rue Gaillarde, à côté de l'église de Saint-Julien actuelle. Et dans une grande maison, mon dernier étage était habité par Monsieur Klein et un de ses fils, autant que je me souvienne. C'est là que donc ils ont élu domicile, après avoir évacué leur maison du gouvernement roi. Ils l'ont d'autant plus évacué et tout enlevé de la cave au grenier que les Allemands, quand ils ont vu cette grande et belle maison avec clocheton, style normand, enfin de 12 pièces et un jardin de 1200 mètres carrés, les Allemands sont mis à l'occuper et ont fait une joyeuse vie, paraît-il, d'après les voisins, dans cette maison, etc. Si bien que tout a été évacué, malheureusement, le 6 juin 1944, rue Malfilâtre, là, mes parents ont subi, comme les autres, le bombardement. Alors, d'après ce que j'en ai entendu dire, parce que personnellement, j'étais en pension à Lisieux, et c'est donc mes frères et sœurs, mon père et ma mère, qui m'ont raconté ça. Et ils étaient en train de déjeuner, ce fameux 6 juin, il était vers 13h, quand les premières secousses sont arrivées, les pierres de la maison ont commencé à bouger tellement ça a été ébranlé, et d'après mes frères, ils étaient en train de manger des frites. Et donc, quand ils ont, mon père a vu ça, que ça se disloquait, que après un ébranlement pareil, il a tout de suite donné le départ, et ils sont partis par la rue Gaillarde, sans rien prendre. En s'évacuant, ils ont pensé qu'il y a quelque chose, c'était monsieur et madame Paré qui connaissaient, qui était au fond de la rue des Jardins, et au fond de la rue des Jardins à Caen, il y avait une petite usine de tissage d'Angora, et là, mes parents se sont réfugiés pour cet après-midi-là, chez monsieur et madame Paré. Je crois que c'est mon père a voulu y retourner vers 14h, d'après ce que j'ai pu lire dans sa affaire, et là, un autre bombardement est arrivé. Non, je crois que c'est vers 16h, je ne sais pas trop ce qui s'est passé dans l'intervalle, enfin dans ses notes c'est marqué, et puis toujours est-il qu'il y a eu un nouveau bombardement, et à ce moment-là, on lui a dit c'est inutile, monsieur Perret, la maison est réduite à l'état de la rue, et mon père raconte d'ailleurs qu'il a vu la maison qui faisait 3 étages, je crois, qui était réduite à un tas de 2 mètres de hauteur. Il n'y avait plus rien. Alors quand il a vu ça, il s'est rappelé par une de mes sœurs qui ont été scouts et guides les uns et les autres et qui avait fait un camp à la sortie de camp vers Courseul à Malon. Alors mon père a dit après tout autant aller vers la mer, il en est toute sa famille, ils ont quitté je crois donc la famille Paré et mon père est parti avec mes 9 frères et sœurs puisque moi j'étais à Lisieux, mon frère aîné était caché à Paris pour échapper au STO et j'avais une sœur en sanatorium à Hauteville dans l'Ain. Donc, il y avait mes parents et 9 de mes frères et sœurs. Et là, ils ont pris la route de Courseul, ils sont partis vers le château de Malon, et se sont réfugiés chez M. et Mme du Manoir, qui les ont accueillis dans leur manoir, et dans un premier temps, ils les ont logés immédiatement pour la première soirée dans 12 ans de la pièce, je crois, puis après, ils sont installés dans la cave, Mais malheureusement, ils ne vont plus rester longtemps ici parce que des obus anglais tombaient régulièrement sur la propriété de M. du Manoir, car les Allemands, progressivement, faisaient de ce château, on faisait un petit peu une fortification. Et en pleine nuit, je crois que c'est la nuit du 7, je ne sais plus si c'est la nuit du 6, mais je crois que c'est la nuit du 7, ils ont obligé que tout le monde évacue, et mon père, mes frères et sœurs me racontent une scène de mon père montrant sa mutilation de la guerre de 14-18, où mon père était amputé à l'âge de 22 ans en 1915, en 75, il avait un appareil, une jambe articulée, donc, et donc, enlevant son appareil, montrant son moignon et leur disant, vous avez quand même peur, etc. Et, pouvant rester là, lui ne voyant qu'une chose, c'est aller vers la mer et être libéré, etc. Et alors, sous la menace du revolver, les Boches donc, ont obligé à ce que cette famille de 9 enfants, plus les du manoir, etc., évacue complètement ce château, le manoir de Manon. Et c'est ainsi que, dans la nuit, je crois que c'était 2h du matin, il faudrait regarder sur les notes, vers 2h du matin, je crois, ils ont dû aller vers Caen. Et là, donc, d'après mon frère, un de mes frères, qui Jacques, une vision absolument apocalyptique, tout était en feu et à sang là-dedans, ça brûlait partout, ils sont arrivés donc à Saint-Étienne, on les a parqués, dans, je crois, à droite, dans une des chapelles latérales de droite. Et puis là, progressivement, dans, je crois, les heures qui ont suivi du lendemain, enfin, de la journée, sur le lendemain, papa a accepté, puisque ça s'organisait de faire des convois vers l'arrière, papa a accepté de faire partie d'un convoi de 30 personnes, je crois, à peu près, et qui ont été évacuées. Alors, on leur donnait, je crois que la mairie avait organisé ça assez bien, on leur donnait des points de repère, et des conseillers municipaux, des gens, en effet, les retrouvaient ici et là, et dans le carnet de mon père, qui note ça jour après jour, on a tout son itinéraire avec les gens qu'il avait, lui avait
un, ils avaient, c'est ça, qui était
imposé. Et qui était imposé. Alors, je crois qu'ils ont fait Saint-Nicolas-les-Pintrains, Saint-Nicolas-les-Détiers, etc. Tout ça sur plusieurs jours pour atterrir. Ils sont passés par Bourg-et-Bue, ils ont traversé d'abord la ville de Caen, ils sont passés par la petite, par la Conseil, ils sont passés par la petite passerelle de la rue d'Arquette, si vous connaissez l'ancien Caen, et où en effet j'avais un oncle, M. Grégoire, qui était conseiller municipal depuis des années ici à Caen, le frère de ma mère, et ma mère tenait à passer rue d'Arquette pour voir ce qu'ils étaient devenus eux, et là ils ont vu que pareil, tout était incendié et brûlé, mais ils ont su quand même que la famille Grégoire était réfugiée chez les Pisseurs des Pauvres, et que tout le monde était sain et sauf. Ils ont quand même pu donner le message qu'eux n'avaient rien du tout, que tout était brûlé rue Malfilade, mais qu'ils partaient donc vers l'arrière avec ses 9 enfants. Donc une de mes sœurs, je ne l'ai pas dit au passage, j'avais une sœur en sanatorium, mais malheureusement j'avais ma sœur aînée, Marie Manet, qui avait rechuté après son histoire de blessure en 43, et qui était en train de faire des lésions évolutives tuberculeuses, donc c'était un grand bon appartement, parce qu'ils étaient obligés de la garder avec nous, donc une contamination possible. Et d'ailleurs, au total, je peux le dire dès maintenant, ça s'est terminé pour nous à la fin de la guerre par 8 tuberculoses sur 12, par la sous-alimentation et comme hasard que vous devinez. C'était quand même. Alors, c'est bien qu'ils sont partis dans cet état-là, avec deux vélos et puis des charrettes. Je crois que de temps en temps, il y avait ici et là des charretiers qui ont fait un coup des charrettes dans lesquelles on les a emmenés. Donc, ils sont allés en passant par Bourg-et-Bue, donc le train. Enfin, Saint-Nicolas-le-Laitier, mes parents ont fini par atterrir dans un pavillon de chasse à Normandel, à côté entre l'Aigle et Sainte-Gauburge, je randonnais par là, c'était très très de randonnée. Et là, donc enfin, ils ont pu souffler, ils ont pu s'installer un petit peu, grâce au maire qui était très très compréhensif, et ils se sont installés là. Voilà, alors pour le détail, si vous voulez, immédiatement bombardement et de ce qui s'est passé de Caen, mon père le détaille davantage étant revenu sur les lieux à chaque fois qu'il avait pu avec un de mes frères pour voir ce qui se passait quand ils étaient au château de Manon, mais en fait ils n'ont pas pu faire beaucoup de croix. Pour le ravitaillement, c'était quelque chose d'impossible, ils ont mis une journée, il n'y avait rien puisqu'ils pensaient que ça allait se passer, ils pensaient revenir à la maison, ils n'ont rien pu emmener, ils sont partis vraiment avec ce qu'ils avaient. Et d'ailleurs, j'étais un des premiers à retrouver la rue Malfilade en 45, je crois, fin 44, je crois que c'est, peut-être fin 44, je me souviens plus très bien. Et je me souviens qu'on a retiré des décombres après avoir gratté avec un de mes cousins le coffre-fort qui était dans la salle à manger et qu'on a retrouvé à 2 mètres sous terre. Et puis, curieusement, dans tous les décombres, des petits verres à liqueur complètement intacts qui étaient dans le buffet de la salle. Des fourchettes et des cuillères, et puis le vieux poste de radio qui était enfoui au fond du jardin sous la tourbe, parce qu'à l'époque, les postes de radio étaient interdits, on les cachait là où on pouvait, et donc on a récupéré un vieux poste de TSF qui était sous la tourbe. La tourbe nous servait de charbon. Dans cette temps de pénurie, on était chauffé à la tourbe, dans ces grandes baraques qui se chauffaient qu'au poêle, on utilisait la tourbe. Et je me souviens, ça avait été très impressionnant de voir ces trois, et puis surtout quand on est assez jeune, les maisons nous barrent immenses, et de voir réduire l'état de la rue trois étages, c'était quand même assez impressionnant. Tout ça ayant brûlé, c'est pour ça que c'était réduit en cendres à ce moment-là. Enfin, c'est tout ce qu'ils ont pu sauver, puisque toute la maison des Boulevard-le-Roi avait été évacuée, c'était terminé. Alors, en ce qui me concerne personnellement, j'étais donc à Lisieux, moi j'ai été sorti d'un vasistas, là, dans une cave de la rue Auchard, avec les pensionnaires, les deux pensionnaires et tous les prêtres qui restaient de Frémont. Et on a été évacués, nous, à Norol, à côté de Lisieux, et de Norol, avec les prêtres et puis la famille La Barrière qui nous avait accueillis, nous allions tous les matins, on faisait nos 7 km pour aller déblayer les morts à Lisieux, etc. Tout ce qui se faisait à Caen se faisait également à Lisieux. Quand un beau jour, vers le 11 juillet, je crois, je vois arriver à Norol, dans la cour de la ferme, un de mes frères avec un de mes oncles. On m'avait laissé sans me le dire parce que c'était l'information était suspecte quand même, mais j'avais senti à un moment donné, 15 jours avant, par deux prêtres qui avaient réussi à aller vers Caen, que en ce qui concernait la famille Perret et le lieu où ils habitaient, parce que moi ils essayaient quand même de me rendre à mes parents, que personne n'avait de nouvelles, qu'on avait entendu les enfants jouer avant leur pas, et qu'après, il n'y avait qu'une famille qui était survivante de Malfilâtre, et ils ont raconté, donc à l'époque, assez près, on se demandait s'ils étaient dessous, puisque en effet, quand je l'ai raconté, mon père, dès qu'il a vu les pierres se disloquer, a quitté rapidement la maison, et donc, au bombardement 13h, oui, 13h15, je crois, au bombardement 14h, tout était terminé, ou 16h, je ne sais plus trop les exactement. Donc, on l'a laissé entendre que tout le monde était brûlé, mort, sous ses... Et moi, je vois arriver ce frère et cet oncle. Je dis, tiens, j'ai nommé mon frère. Je me souviens, c'était vraiment quelque chose de... Car je m'étais fait un peu à l'idée que, après tout ce qu'on entendait parler sur Caen, que... Alors, je savais quand même que j'avais ma sœur qui était en sanatorium, mon frère qui était à Paris, si bien que ça me rassurait. Et puis, heureusement, il a parlé assez rapidement pour me dire, t'inquiète pas, on vient te chercher, on est tous vivants. Et c'est comme ça que j'ai su qu'ils étaient à Normandelle, à côté de Randonnée, que je les ai rejoints avec mon oncle. Là, ils étaient mis à bicyclette, et on est parti avec deux bicyclettes pour trois. Et puis, on a fait donc toute cette odyssée de Norol à Lisieux jusqu'à Normandelle, où j'ai retrouvé donc mes frères et sœurs. Et mon frère aîné de Paris avait fini par savoir, au bout d'un certain temps, que mes parents, alors je crois qu'il y avait en effet des liaisons qui étaient données par-ci, par-là, enfin... L'adresse de mon frère était connue, bien sûr, de mes parents, et donc ils avaient réussi à faire passer un message, et mon frère nous a rejoint également, si bien qu'il ne manquait plus à la peine que ma sœur, qui était à un sanatorium à Hauteville, qui malheureusement devait mourir fin 45, sans avoir vu l'ensemble de sa... Ah oui, c'était une tuberculose très grave à l'époque, et elle avait pu s'en remettre. Alors voilà, si vous voulez, raconter un peu rapidement le départ et l'arrivée. Alors personnellement, j'ai donc pas été le témoin direct, si vous voulez, de ce qui s'est passé au moment du débarquement à Caen. J'en ai surtout entendu parler par mes frères et sœurs et la difficulté que ça a représenté pour papa et maman. Ceci dit, dans ce petit carnet, papa a un carnet, c'est ça, il a noté au jour le jour tout ce qui s'est passé. Si on voit le début, par exemple, ce mardi-ci, ce vers minuit, réveil par bombardement continu vers la côte. Peu après, passage de très nombreux avions, calme relatif entre 2h et 3h du matin. Reprise au bombardement,
ça se situe à Caen.
Alors voilà donc le début, reprise au bombardement intense de différents côtés vers la côte, passage de nombreux avions en groupe et isolés, mais papa aimait bien le mot précis. Vers 4h, branle-bas général, tir de grosses pièces de marine, bombe, mitraillage, bruit très intense jusque vers 8h. Enfin, calme relatif vers 9h. Vers 14h, brusque arrivée d'avion de bombardement sur Caen et première chute de bombe en plein sur notre quartier. Une bombe, ça continue, je ne sais plus trop, tombe dans le jardin, Gast, il y avait en effet une famille à côté de nous. Chez nous, tous les carreaux tombent, la maison est ébranlée, alors bien c'était là qu'ils se rendent, et le premier et second étage en partie soufflés. C'est là où papa a eu peur, c'était donc après le repas, au moment du repas. Je pars conduire ma malle, alors c'était ma sœur qui était malade, chez mon oncle Émile qui était à Nécrune, chez Émile, et sa maison est touchée aussi.
pas gravement, par des éclats, et le souffle d'une mort, qui est tombé en face chez lui. Il songe à partir au Frenkelmi, où ils avaient envoyé au Frenkelmi, de suite avec Simone et leur fille. Je ramène ma mère chez les Vernoux-Bonneuil. Les Vernoux-Bonneuil, je vous disais, d'une vieille famille qui était avenue Creuilly. Donc, papa a essayé de placer ses tours, puisqu'il, du coup, il avait dit qu'il ne pouvait pas revenir dans cette maison, donc elle qui était malade, qui avait d'ailleurs la fièvre, dont je me souviens. Ils essayaient de la mettre sur qui ils pouvaient, donc quand il a vu ça, il a mis chez les Vernoux-Bonneuil, car il est très ébranlé. Je retrouve Agnès, donc ça fait ses parents, et les enfants, sous un porche, rue des Costis, un Julien, mais tout le monde était comme parti, et ça avait plus vraiment apeuré, ça avait plus où se mettre.
Il apprend beaucoup, beaucoup de précisions.
Et les ramène chez les fameux monsieur le Rimparet, où nous comptons nous installer. J'y ramène ensuite ma mère, donc ça n'avait pas dû marcher, elle ne pouvait pas rester, elle avait peur à son tour. Et nous apportons quelques premières provisions après un second bombardement qui a touché la gare et le centre de la ville. Jacques et Henri Klein, Jacques c'est un de mes frères, Klein c'est celui qui était au deuxième étage, rapportent que de nombreuses chutes ont eu lieu un peu partout. C'est la destruction de camps qui se poursuit. Ensuite, nouveau et troisième violent bombardement sur notre quartier vers 17h. Cette fois, les bombes sont tombées sur la carrière à hauteur des Paris. Voir la fin pour la suite. Alors, on peut continuer comme ça, vous trouverez là.
Et combien de carnets avez-vous ainsi?
Ah non, non, il n'y a que ça.
Un seul.
Il n'y a que ça.
Alors... Et c'est déjà magnifique. Et est-ce que vous pouvez nous le confier?
Absolument, absolument.
Et on peut rentrer. On peut rentrer très vite. Bertrand peut essayer de faire
demain,
une photocopie demain. Et dès demain soir.
Oui. Alors c'est assez lisible. Il y a des mots, bien sûr, moi qui j'arrive à lire très facilement parce que ça me parle, bien sûr. Et sur lesquels vous avez... Si bien quand j'avais des âges, je me dis, tiens, après tout, c'est vrai que j'aurais dû le faire taper, et donc c'est plus facile.
Ça a plus de...
Ah ben ça a plus de valeur comme ça, on est bien d'accord, mais si jamais vous hésitiez, vous le dire, parce qu'il oui. y a des phrases que
c'est
vous...
C'est peut-être pour interpréter, par exemple,
voilà.
Tout de suite, le nom de votre mère, ou...
C'est ça, exactement, qui c'est Agnès, Jacques,
mais
c'est ça.
Mais c'est ça, peut-être qu'il faudra, le faire photocopier demain, et puis que vous vérifiez.
À ce moment-là, je pourrais vous demander l'éclaircissement,
sur
tel ou tel...
C'est vraiment, ça a une valeur extraordinaire, parce que le pire, c'est très vivant, on s'imagine bien, le désarroi de cette
ah, oui,
famille,
oui,
triste,
c'est sûr, ils ont tout perdu, tout perdu, et lui, il a fait le surdoué.
Merci docteur Perret. Nous recevons à nouveau le docteur Perret, qui après nous avoir évoqué ses souvenirs personnels du bombardement et de l'évacuation, nous livre aujourd'hui ceux de sa sœur Agnès.
Alors en effet, j'ai écrit à une de mes sœurs là, qui a été très enthousiaste pour raconter en fait ce qu'elle a vécu à cette époque-là. Le 6 juin, me dit-elle, le 6 juin, l'ombre réveille hallucinant, les sirènes hurlent, le ciel est en feu. Un véritable feu d'artifice éclate. La maison de la rue Maffilâtre se lézarde, l'escalier se dérobe sous nos pas. C'est moi la première, je crois, qui ai dit à maman « Vite, vite, partout !» En effet, nous arrivons chez une voisine qui avait une cape solide. Malheureusement, nous devons partir sans rien. Nous étions partis sans rien, alors que nos valises étaient prêtes. Nous pensions tellement revenir à la maison. C'est Jacques, après... C'est donc un compte de mes frères. C'est Jacques, après une petite accalmie, qui est parti en éclaireur pour voir si nous pouvions rejoindre la maison. Et Jacques revient et dit à maman « C'est impossible de revenir tout brûle. Les voisins, les maisons sont écroulées. » Pendant ce temps, papa revient du centre-ville où il était parti aux nouvelles. Il nous a cru pendant un long moment tous morts sous la maison. C'est une voisine, je crois, qui lui a dit « Monsieur, si vous cherchez votre famille, ils sont tous à l'abri dans la cave de la voisine. » Papa, en effet, nous rejoint là et pour la première fois de ma vie, je le vois pleurer. Tellement la joie de nous retrouver, tous vivants, était forte. Là, il a fallu nous organiser. Papa connaissait des gens qui avaient une superbe maison vers la mer, monsieur et madame Paré, je crois. Nous restons là quelques jours. Après, nous partons sur la route vers la mer et arrivons à Malon, dans un joli manoir. Les gens nous accueillent très gentiment. Avant d'y arriver, Jacques a failli se faire tuer. Papa l'avait expédié en éclaireur, voir ce que les paysans disaient. C'est grâce, je crois, à l'un d'eux que Jacques a pris conscience qu'il était en plein champ de bataille. Jacques te racontera sûrement beaucoup mieux que moi cet épisode. Nous nous installons dans la cave du manoir, nous y restons 8 à 10 jours, je crois. Nous étions ravitaillés par DSS, incroyable mais vrai. Il nous, là, papa dit, lui, dans son petit livre, dans son carnet de notes, je veux dire que ce sont des Allemands. Je crois qu'en effet, il n'y avait peut-être pas de DSS, je crois que c'était la Wehrmacht. Pas, c'est possible, j'en sais rien. Nous étions ravitaillés par DSS, incroyable mais vrai. Ils nous passaient leurs restes par les soupirails de la cave. Les propriétaires du manoir nous apportaient aussi un peu de ravitaillement. De temps en temps, suivant les accalmies, nous sortions un peu de cette cave pour prendre l'air. Mais bien vite, il fallait redescendre. La bataille n'avançait pas. Nous étions un jour avec les Allemands, le lendemain avec des Canadiens ou des Anglais. Enfin, en pleine nuit, un chef SS vient nous dire qu'il fallait partir tout de suite, que nous étions sur le champ de bataille. Des obus éclatèrent par endroits. Et c'est là, au moment de partir, que j'ai vu un Allemand décapité par un obus. Il venait de s'asseoir pour se reposer. Nous voilà donc partis sur Caen. Ce trajet en pleine nuit me parut interminable. Nous étions dans les tranchées avec les soldats. Dominique pleurait. Il avait perdu. Dominique, c'est le numéro 12, c'était le dernier. Il avait à cette époque-là 4 ans. Dominique pleurait. Il avait perdu une chaussure. Le ciel était toujours éclairé de 1000 feux. Nous arrivons à Caen. Là, ce fut horrible. Des cadavres et des corps disloqués par endroits, jonchaient le sol. C'était affreux. Nous arrivons au lycée Malherbe, grand centre des réfugiés. Ouf, nous voilà un peu tranquilles, pensions-nous. Moi, j'y retrouve des amis, j'aide à la cuisine, à distribuer des couvertures et des vêtements. Pour tous ces gens qui arrivaient, nous nous occupions, et c'est très bien. Papa, après quelques jours de repos, tout relatif, au lycée Malherbe nous dit « Les enfants, nous allons partir. Nous allons partir faire l'exode. Je suis nommé chef de file, 20 à 30 personnes environ. En effet, il était suggéré aux personnes de partir le plus loin possible de la ville. Il fallait donc trouver... traverser Caen à nouveau. Et c'est là que je me suis perdu. J'ai vu des personnes qui brûlaient, des véritables torches vivantes, des corps épars, les bombes, les obus, la mitraille, tout cela faisait un bruit d'enfer. Et tout à coup, j'ai vu un petit chemin tranquille, tellement je voulais fuir cet enfer. Après avoir passé le pont, le fameux pont sur l'Orne, un monsieur, heureusement, qui arrivait à bicyclette, me dit « Vite à terre, ma petite demoiselle !» Il se jette sur moi dans le fossé. En effet, des avions descendaient en piqué pour mitrailler. Ce monsieur me dit « Où allez-vous » Je lui réponds « Je ne sais pas, j'ai perdu ma famille. » Il me dit « Je vais vous laisser à Fleury. » Sur Orne, moi, il faut que j'aille retrouver les miens plus loin. À Fleury-sur-Orne, j'arrive à la mairie, j'explique mon cas, je rencontre des gens de connaissance, notamment un professeur de Saint-Pierre. Cette sœur avait été en pension de pensionnaire à l'institution Saint-Pierre avec mes autres sœurs. Seulement, mon problème, c'était de retrouver ma famille. Heureusement, mon père était organisé. C'est-à-dire, je pense qu'au lycée Malherbe, on avait dû lui donner un plan et des étapes à suivre, et tout à coup, je me suis souvenu que la première étape devait se faire à Bourguébu. Je passe donc la nuit à la mairie, alors qu'en principe, je devais aller dormir dans les champignonnières. Depuis, je sais qu'ils sont tous morts là-dedans. Enfin, une ambulance arrive, on demande s'il y a des gens à emmener. Le maire dit « Oui, oui, il y a cette jeune fille, elle a perdu sa famille, elle veut aller à Bourguébu. » Je monte donc dans l'ambulance, ou au mini-estafette, près du chauffeur. Derrière, il y avait aussi plusieurs personnes. En cours de route, nous avons été mitraillés plusieurs fois. J'arrive enfin à Bourguébu, à la mairie, et là, je retrouve ma famille. Papa m'envoie une gifle magistrale, tellement il avait eu peur pour moi, je crois. Malheureusement, dans l'ambulance, je sais qu'un homme avait été blessé à mort. Nous reprenons la route le lendemain, et cette fois, je marche devant tout le monde. Papa me l'ordonne. La route de l'exode fut pénible. Heureusement, nous avions des arrêts dans des fermes et dormions dans des granges. Les rats nous passaient sur la figure, mais à côté des bombes, ce n'était rien. Les vieux pissaient dans leurs chapeaux. Des situations vraiment cocasses nous faisaient rire. Après, je ne sais plus très bien. Geneviève et Jacques t'en diront plus. Je sais que la route fut pénible. Papa ne pouvait plus avancer. Il avait très mal à son moignon. Je vous l'avais dit, il a été mutilé à la guerre de 14 et il avait donc un appareil, une jambe artificielle. Il disait « Continuez sans moi ». C'était impossible, bien sûr, de le laisser. Nous attendions souvent dans les fossés que papa se repose, enlève sa jambe artificielle et nous repartions. Jacques portait Marie-Madeleine sur sa bicyclette. En effet, c'est cette sœur qui malheureusement était malade et que mon frère portait sur le cadre. Jacques doit avoir des souvenirs beaucoup plus précis que moi et bien pénibles. Cette pauvre Marie-Madeleine, comme elle devait souffrir. Voilà pour ma part une partie de mon odyssée, car je pense avoir oublié bien des choses.
Voilà. Oui, en ce qui vous concerne, docteur Perret, vous étiez pensionnaire à l'Institut Frémont à Lisieux. Comment avez-vous vécu cette période?
C'est ça. Ce qu'il faut situer, c'est qu'avant d'arriver à Frémont à Lisieux, là, je venais d'Avranches, où j'avais déjà vécu, en effet, l'occupation allemande de l'Institut Notre-Dame d'Avranches. Et je me souviens très bien, en effet, de cet institut qui était peint en vert, et on avait fini par être évacué dans des tas de petites maisons particulières à Avranches. J'y ai passé 2 ans, en 41, je crois, donc je me souviens, je suis arrivé donc à rue Paul Balaston à Lisieux, à l'institution Frémont. Et là, nous étions donc dans les bâtiments de l'institution, et je me souviens, on entendait passer sous nos fenêtres les Allemands au pas cadencé, chantant Ali Allo, etc. Et puis, quand un beau jour, on a appris qu'ils avaient décidé de réquisitionner la pension. Et on a tous été dispersés en ville, dans des maisons particulières. Les moyens, les grands, les petits étaient disséminés ici. Enfin, c'était tout un problème et un circuit. Et je me souviens très bien, étant pensionnaire, d'avoir aidé les prêtres, tous les personnels de service, jusqu'à nettoyer complètement les caves et emmener tout le charbon qu'il y avait là-dedans. On était noirs, des négriers, là, à force de mettre du charbon en sac. Et on n'a rien laissé aux poches, on a vraiment tout enlevé du grenier jusque... Alors c'est pareil, dans ces âges-là, c'était un peu extraordinaire, c'était un peu exaltant, c'était vraiment des époques très enthousiasmantes pour nous autres. Et puis alors, dans ces maisons particulières, moi je me souviens qu'on était... La plus grande partie de l'établissement était rue Auchard, et pas loin de la cathédrale. Et alors là, le 6 juin 44, dans la nuit, comme un peu partout dans la région, grondement dans le ciel, grondement dans la nuit, avions, etc. Et puis les bombardements ont commencé. Car je crois, d'après ce qu'on nous a dit depuis, enfin ce qui a été écrit, qu'à peu près à la même heure, dans toutes les grandes villes, il y avait les mêmes bombardements. C'était vraiment une systématisation. Et donc là, je me souviens très bien de cette nuit absolument infernale. Déjà, on avait entendu, nous, au loin, on avait entendu des bruits qui venaient de très loin, ça grondait. Et je me souviens qu'en tant que pensionnaire, on se doutait de quelque chose, parce que le supérieur, la veille, avait convoqué les professeurs, on sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait. La plupart des élèves devaient avoir une composition, un bac blanc, on appelait ça. Même en seconde, on nous faisait faire des bacs blancs. Nous, j'étais en seconde, moi, à ce moment-là. Et on nous avait donc dit qu'on n'aurait pas la composition, que peut-être que des élèves partiraient, etc. Effectivement, le lendemain, toute la pension a été évacuée, tous ceux qui pouvaient partir. Et j'ai su après que le supérieur avait su par la préfecture, donc par des résistants, qu'il y allait y avoir des événements importants. Et je crois que même certains savaient le débarquement.
Ça, donc,
c'était dans la nuit du 5 au 6. Ça,
vous n'étiez pas du tout au courant, en fait.
Du tout. Sauf, je crois, puisque en effet, ça a sauvé beaucoup d'élèves, puisque il y a eu évacuation de la majorité des élèves, et on n'est plus resté en définitive qu'à deux. On est resté qu'à deux pensionnaires, Serge Mendès et puis moi. Lui, je ne sais plus trop où étaient ses parents, en tous les cas, j'étais un des rares qui était de camp. Puisque Caen avait quand même pas mal de pensions, etc. Moi, sauf que j'étais religieuse, enfin, c'était comme ça. Donc, j'étais le seul élève de Caen. Et donc, pour gagner Caen, puisque c'est par là que se passait le département, il n'était pas question. Alors, je suis resté avec ce pensionnaire. On est resté à deux avec les prêtres. Là. Et alors, je me souviens très bien qu'on a fini par être obligé de descendre dans la cave, une cave voûtée, dans cette rue Auchard. Et c'était cocasse parce que se retrouver tout d'un coup, alors que vous avez vécu des années de pension, des mois avec des professeurs dont les rapports sont forcément des rapports d'élèves à professeurs, et se retrouver là avec aussi bien les gens de service, les sœurs, les prêtres, tous assis sur des tas de patates ou du charbon dans une cave, à débiter des Notre Père, des Je vous salue Marie, ayant de temps en temps quand même envie d'aller aux toilettes, etc. Et donc je raconte tout ça parce que c'est vraiment tout à fait extraordinaire pour un gamin de 15 ans et demi, 16 ans, se retrouver et donc chacun étant obligé de faire ce besoin devant tout le monde, que ce soit les bonnes sœurs et entendre les pipis des uns des autres qui descendaient dans les pots de chambre, etc. Donc, alors il y avait un prêtre qui essayait de faire rigoler un petit peu parce qu'on était quand même un petit peu angoissés là-dedans et puis on apercevait qu'il y avait deux soupirails par lesquels on ne pouvait peut-être pas facilement sortir. Et en définitive, ça fait une nuit vraiment, je me souviens que dans cette cave, on faisait des bombes à peu près de 50 cm à 1 mètre à chaque fois qu'il y avait des bombes, etc. Et puis ça s'est calmé, je sais qu'au petit matin, on est sorti quand on a vu que c'était complètement déjà défoncé. Rapidement, le père supérieur m'a dit, allez, Jo, viens, il faut qu'on aille à la chapelle vider le ciboire, et j'ai jamais vu manger autant d'hosties de ma vie. Avec le père Durand, on a donc à nous deux liquidé deux ciboires d'hosties consacrées, et malheureusement pour moi, et j'avais tout mis dans un sac allemand, d'ailleurs j'avais piqué au Bosch un sac que j'aimais bien, qui avait une espèce de petite couverture, un petit peu de poils, qui était recouvert de poils sur le dos, là, sur la partie dorsale du sac, là. Et donc j'avais tout mis là-dedans. Je me souviens que j'avais une paire de godasses que mes parents m'avaient acheté peu de temps avant, les semelles articulées, à semelles de bois, on avait des semelles articulées, il n'y avait plus de cuir, il n'y avait plus de chaussures, donc les chaussures neuves, c'était des chaussures avec des semelles de bois articulées. Et mais j'en étais très content parce qu'elles étaient tout neuves. J'avais un costume de golf également, qui n'était pas vieux, qu'on m'avait acheté, etc. Et alors je dis tout ça parce que j'avais donc rassemblé ça rapidement dans le dortoir, parce que c'était pareil, ben, cette maison était en train de se disloquer. Et puis le père supérieur donc, me dit, allez viens, on vient, je laissais mon machin. Puis en même temps, des bombes sont retombées, et je me souviens d'ailleurs de plaquettes incendiaires qui, dans le ciel, je ne sais plus trop, que, bon, enfin moi j'avais interprété ça comme ça, et ça s'est mis à prendre feu dans tout l'établissement, ici et là. Si bien que j'ai oublié mon sac, moi je suis parti, on n'a fait que vider le ciboire à toute vitesse là. Et puis, du coup, je me suis retrouvé, c'était au mois de juin, il ne faisait pas si mauvais que ça quand même, je me suis retrouvé en petite chemisette et puis en short avec des sandales, et je n'avais plus rien. Tout est resté en haut, on n'a pas voulu que je remonte chercher mon sac, car la chapelle était au premier, et je suis parti sans rien. Que ce short, cette petite veste, etc. Alors là, à partir de ce moment-là, il y a eu donc évacuation définitivement de cette rue au char avec des prêtres, et ils ont eu la bonne fortune d'être recueillis à Norol, à 7 km à peu près de Dijon, avant Vercon-l'Évêque, dans une ferme qui appartenait donc aux parents d'un élève, monsieur et madame Labarrière. Et là, j'ai donc été avec les prêtres jusqu'à cette ferme où je suis resté avec eux. Mais on revenait, donc on a été pas mal mitraillés pendant tout ce trajet, les bombes continuaient à descendre. Depuis ce repère de Norol, nous revenions tous les matins, ou à peu près, on faisait nos 7 km à pied pour aller déblayer les morts à Lisieux. Alors c'est là autre fait, c'est que bon, j'avais emmené ma veste, je me souviens très bien, et il y avait une petite vieille là, que j'ai découverte dans des décombres et qui était complètement disloquée. Elle avait une jambe cassée, elle vivait encore, bon, on décrochait les volets des maisons pour faire des brancards. Et n'écoutant que mon cœur, j'ai donc enlevé ma veste, je l'ai pliée en trois, je lui ai mis sous la tête, et à l'hôpital de Lisieux, on allait donc à pied emmener les gens qu'on pouvait, j'ai emmené cette petite mère, et je sais que prêt à repartir en courant avec mon volet sous le bras pour aller en chercher d'autres, j'ai complètement oublié ma veste, si bien qu'en définitive, moi, et j'ai jamais pu retrouver ma veste. Après, j'y suis retourné une autre jour, j'ai dit, tiens, demain j'irai à l'hôpital demander, la petite vieille, j'ai jamais retrouvé dans tous ces gens qui étaient allongés, parqués dans des grandes salles. Et puis les chirurgiens n'avaient plus donné de la tête, il y avait tellement à opérer, des fractures, des gens gémissaient partout, que j'ai jamais pu retrouver ma grand-mère, peut-être qu'elle était morte dans la nuit, j'en sais rien. Toujours est-il que j'ai essayé de dire, écoutez, moi j'ai quand même ma carte d'alimentation, j'ai mes papiers, j'ai ma carte d'identité, j'avais un peu, très très peu d'argent, enfin j'avais quelque chose ici. Et puis enfin, comme j'avais plus rien, je tenais à ça quand même. Et puis en définitive, j'ai jamais retrouvé cette veste. Et bien quand moi je me suis retrouvé carrément avec ma chemisette, ces fois, et puis mon petit short. Alors donc on venait avec les enfants de la prière, car c'était également une famille nombreuse, c'était 10 enfants, plus les prêtres de Lisieux. On rejoignait d'ailleurs les prêtres de la Mission de France. La Mission de France avait été créée en 40-41 à Lisieux, et on se retrouvait sur des tartes en ruine tous les jours. Alors moi j'avoue que c'est une période assez enthousiasmante, parce que vous aviez le sentiment d'être utile à quelque chose, de faire quelque chose, vraiment dans des contextes
Et est-ce que votre lycée, votre collège a été touché?
Alors le collège du Frémont n'a pas été complètement, a été très abîmé, oui. N'a pas été complètement détruit. Ça a été reconstruit, ça a été la moitié détruit. Hein. Actuellement, il y a encore des vieux bâtiments qui ont été plus ou moins rénovés, puis il y en a des neufs. Toujours Hugo Manaston a récupéré, après ils ont récupéré leur, une partie de leurs locaux. Et justement, le temps que ça se reconstruise, etc. Après la guerre, moi je suis revenu dans cette pension. Et là, à nouveau, on a retrouvé d'autres maisons dans la ville de Lisieux pour pouvoir, en effet, que toutes les classes puissent rentrer. Et notamment, les élèves qui avaient des grandes classes étaient dans des maisons disséminées ici et là. Et une fois que Frémont a été un peu reconstruit, on a regagné. Mais moi, j'ai pas vécu ça. Puisque j'ai terminé à Lisieux, on était encore dans des maisons particulières ici et là. Alors voilà pour cet épisode, l'Exovien.
Vos études n'ont pas été trop perturbées,
non? Eh bien non, moi j'ai donc, c'était donc le 6 juin 44, j'ai retrouvé mes parents, comme je vous l'ai dit précédemment, je les ai retrouvés, car j'ai été coupé d'eux jusqu'au 11 juillet, je crois, ou 17 juillet, je ne sais plus ce que disaient les notes de mon père, je crois que c'est vers le 11 juillet, où un de mes frères est arrivé dans cette cour de la ferme de Noreux, avec un de mes oncles, et où j'ai cru en effet qu'il n'y avait plus que lui qui était survivant. Mais je ne comprenais pas pourquoi lui était là et puis cet oncle. Enfin, c'était très flou dans ma. Mais j'ai cru qu'il y avait que lui, parce que je vous l'avais dit, j'avais senti à un moment donné, dans cette période, qu'un prêtre de Frémont était allé à Caen voir s'il y avait des nouvelles de la famille Perret, parce qu'ils avaient quand même la responsabilité d'un pensionnaire. L'autre pensionnaire, entre deux, était parti. Il restait à peu près une dizaine de jours avec nous et sa mère, Madame Mendès, s'était venue chercher. Donc j'étais plus resté tout seul avec eux. Et j'avais senti, par le fait qu'on m'entourait un petit peu, j'avais senti qu'il se passait quelque chose. Je savais que le père Le Bosquin était allé à Lisieux, il était revenu, je lui avais demandé comme ça, il m'a dit « Non, je crois que tout va bien, bon, mais j'avais rien eu de formel. » Et puis j'avais senti un petit peu que, bon, tant qu'il sentait, on leur avait dit, alors je le sais depuis, qu'on père Le Bosquin, en définitive, on lui avait dit « Écoutez, on croit toute la famille, elle est là-dessous, sous les décombres, etc. » Alors quand j'ai vu ce frère arriver avec ses tombes, moi, je me demandais ce qui se passait. Et puis, à partir de là, donc, comme je vous l'ai dit, on est reparti, j'ai rejoint mes parents à partir de Normandel, de Norol jusqu'à Normandel, avec deux vélos pour trois. Où là, c'est pareil, on a mis un certain temps, on a bougé, on a mis deux, trois jours, je crois. On a bougé chez les fermiers, connaissaient mon oncle, lui, qui était cultivateur et marchand de bestiaux. Et puis, on a essuyé les vitraillages, alors la Mougourson, on a failli, en effet, être vraiment étripé, on a eu du pot, là, parce que un fossé, là, les balles sifflaient partout, et puis on est arrivé à nous rendre.
D'accord. Je suis de revenir un peu en arrière, vous avez parlé de la branche, pourquoi il y a eu de la branche? Pour venir à Lisieux à cause du...
Non, c'est une histoire tout à fait interne à la famille. Mon frère aîné était avec moi. Non,
je pensais que c'était lié...
Il n'y a rien à distraire, non, du tout, c'était pas lié à ça. Mon frère aîné avait été mis à la porte de la pension, c'était difficile... Mon papa a vu ça comme ça, que j'y suis quand même resté, je crois, un an. Alors, comme mes cousins de Coutances, qui étaient à Avranches, avaient terminé leur pension également à Avranches, j'étais un petit peu, ça faisait un petit peu loin de Caen, si bien quand mon père a vu ça, ils étaient renseignés dans la région, et c'est comme ça qu'ils ont eu connaissance de Frémont et qu'ils m'ont fait quitter Avranches pour Frémont. Mon frère serait resté, il n'y aurait pas eu ce problème d'avoir été mis à la porte, j'aurais peut-être resté avant jusqu'à la fin de mes études, j'en sais rien. Mm-hmm. Non, ça n'a rien à voir avec eux.
D'accord.
Ça n'a rien à voir avec la guerre. Mais là aussi, à Avranches, hein, c'était tout un vécu d'occupation là, avec cette grande. En fait, ils prenaient les pensionnats, tous ces gens-là, que pour casernes. Ils se faisaient des casernes à peu de frais, parce qu'il commençait à y avoir une occupation vraiment très, très importante au fur et à mesure. Et les casernes habituelles ne leur suffisaient pas, et ils prenaient les pensions comme casernes avant. Alors, puisque vous voyez, ce qui s'est répété, ce qui s'est fait à Lisieux, c'était la répétition de ce qui s'est fait à Avranches. Et alors, comme ils faisaient à l'époque, pour le camouflage, quoi, toutes ces grandes bâtisses étaient badigeonnées en verre. C'était vraiment ce qu'on appelait les doryphores, puisque le doryphore, le parasite des pommes de terre, c'est les doryphores, et eux, ils étaient habillés en vert, les gauches, l'uniforme était vert, on les appelait les doryphores. En plus, ils nous bouffaient ce qu'on avait à bouffer, et Vous ne saviez peut-être pas, hein, je crois. Peut-être plus. Comment il vous fait, le quintal. Ben, nous, on était au Topinambour, et on était à Rutabaga. Moi, je me souviens que c'était ça, l'essentiel. Et d'ailleurs, à la pension, hein, on avait souvent que des choses de genre. C'est certain.